Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Bonjour auditrices et auditeurs de Brassage. Brassage du 23 mai 2024 et nous sommes en pleine semaine de la nature et nous aurons en deuxième partie d'émission justement l'intervention de Rénal Rigolo qui nous dira, donc pour Flore 54, les différentes perspectives qui se profilent dans la période pour préserver cette nature. Et puis, nous sommes en mai, hein, et jusqu'au 26 mai, nous ferons l'Europe. On fera surtout une petite illustration musicale avec quelques temps forts. Et pour en savoir davantage, vous pouvez aller également sur le site Faites l'Europe. Mais de l'Europe, nancy.fr/mais de l'Europe. Et ensuite, nous arrivons aussi vers la fin mai. Et le 25 mai, à 16h, le collectif Histoire et mémoire dans le respect des droits de l'homme pour justement qu'il n'y ait pas de statut de Marcel Bijard en militaire, en parachutiste, dans l'espace public toulois, ce collectif nous propose de nous retrouver à 16h pour manifester notre désaccord avec la décision du conseil municipal de Toul. À 16h, place Nelson Mandela, donc c'est l'espace entre la pépinière et la place Tannes, le samedi 25 mai. Et également, dans cette même période, puisque ça se termine le 25 mai, il y a Aux Actes Citoyens à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès, avec aussi une programmation dont certains événements sont par ailleurs gratuits. Voilà, très succinctement, la proposition de ce menu, de ce brassage du 23 mai. Et nous allons justement commencer avec l'intervention d'Isabelle Marc qui nous parle des raisons pour lesquelles il nous propose ce rendez-vous le 25 mai à 16h, place Nelson Mandela à Nancy, donc entre la place Tannes et la pépinière, afin qu'il n'y ait pas de statue de Marcel Bijard dans l'espace public toulois. Bonjour Madame Isabelle Marc.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs.
Alors justement, je vais vous laisser vous présenter parce que il se passe des événements potentiellement quand même graves sur le secteur de la Lorraine et il y a un collectif qui s'est monté. Alors tout d'abord, présentez-vous et présentez-nous ce collectif.
Alors, comme vous l'avez dit, ce collectif s'est monté sur Toul. Moi, je suis touloise et militante syndicale et pour les droits humains, on va dire. Nous avons appris dans la presse que la mairie de Toul avait accepté le don d'une fondation Bijard d'installer une statue du général Bijard en uniforme de parachutiste avec son béret et ses médailles dans l'espace public et dans l'espace des monuments du souvenir et du monument d'hommage aux résistants à la barbarie nazie. Donc nous sommes indignés. Notre indignation a rencontré également celle d'un ancien appelé en Algérie qui avait déjà interpellé monsieur le maire de Toul. Et voilà comment le collectif est né. Il se trouve que la LDH de Lorraine avait été interpellée par ce monsieur ancien combattant d'Algérie. Donc nous avons réuni nos énergies pour prendre parole publiquement contre cette statue et pour organiser une conférence d'information sur le rôle du général Bijard pendant les guerres coloniales.
Alors, tout d'abord, j'ai toujours habitude pour décliner les sigles, donc la LDH, la Ligue des droits de l'homme, non, que vous voilà. Avez, voilà. Et puis, je pense à nos jeunes auditrices et auditeurs qui se disent, Bijard, alors bien sûr, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour les plus anciens, difficile de ne pas savoir pourquoi il était, entre autres, connu. Mais est-ce que vous pouvez justement nous présenter et savoir pourquoi vous vous opposez à cette... nous opposons, parce que je pense que d'autres personnes aussi, et je me mets aussi sur les rangs, ont été sidérés de voir ce projet accepté par la mairie de Toul. Et surtout, un militaire en uniforme de parachutiste, parce que c'est notamment dans le cadre de son action militaire en tant que parachutiste, disons, dans la hiérarchie des parachutistes, hein, puisqu'il commandait, qu'il s'est, entre guillemets, illustré. Alors, vous pouvez nous en parler davantage,
hein? Alors, le général Bijard a participé... Donc après avoir été résistant, ce qu'on doit lui reconnaître, il a participé à la guerre d'Indochine. Et il est toujours dans sa légende auto-créée, dans ses livres, etc., considéré comme le héros de Dien Bien Phu. Bon, la guerre d'Indochine qui était une guerre de libération du peuple vietnamien, n'oublions pas. Et à la suite, il a été impliqué dans la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, il a commandé une brigade de parachutistes qui a été notamment très très mise en cause dans ce qu'on a appelé la bataille d'Alger en 57. Alors, la bataille d'Alger, c'est une offensive de l'armée française à qui le gouvernement a donné les pleins pouvoirs et des pouvoirs de police pour réprimer la résistance algérienne, à la veille d'une grande grève générale de 8 jours qui avait été initiée par le FLN pour montrer l'implication pacifiste des Algériens dans la revendication d'indépendance. Donc à la veille de cette grande grève coloniale, on a envoyé de nombreux régiments et entre autres parachutistes dans la Médina, dans Alger, pour arrêter des gens et pratiquer une politique de terreur. C'est-à-dire que de nombreuses personnes ont été battues, violentées, arrêtées, mises au secret, sans que leur famille n'ait de leurs nouvelles. Quand on parle aux Algériens de Bijard, tout de suite, la réaction, c'est « Ah, les crevettes Bijard ». Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que les crevettes Bijard. Ça donnera une idée du personnage. Quand on avait torturé des personnes dans des endroits secrets, pour qu'il n'y ait pas de traces à charge, si vous voulez, de l'armée française...
Oui, parce Bijard que avait... je me permets de vous interrompre. Moi, je l'ai appris lors de la conférence avec ces deux excellents historiens. Ils signalaient que au départ, il balançait, excusez le terme, les corps à la mer. Et les habitants d'Alger ont commencé à en avoir marre de voir revenir avec les courants les corps vers la plage, en fait.
Voilà, de leurs compatriotes. Et donc, Bijard a eu l'idée ingénieuse de sceller les pieds de ces personnes dans un bloc de béton de façon à ce qu'ils ne réapparaissent pas quand on les balance des hélicoptères. Il faut savoir aussi que Bijard a été impliqué dans la formation de nombreux militaires dans une ville qui s'appelait Philippeville, où il y avait une école de formation des cadres des parachutistes, où il a enseigné les méthodes de ce qui s'appelait la guerre contre-institutionnelle. contre-insurrectionnelles, pardon, et que ces méthodes ont été exportées en Amérique du Sud, et notamment dans les dictatures chiliennes et argentines, où bon, les auditeurs ne sont pas sans savoir que lors des pratiques des dictatures, en particulier en Argentine, il y a de nombreuses personnes qui ont disparu de cette façon-là. Ces techniques-là ont été utilisées. Bon, il y a des éléments, parce qu'on nous rétorque souvent, mais il n'y a pas de preuves. Il y a quand même de nombreux éléments mis à jour par les historiens qui ont montré, par exemple, que le régiment et la brigade que Bijard commandait avaient été à l'origine de nombreuses arrestations pendant cette bataille d'Alger. Donc, nous, on considère, nous, si vous voulez, qu'on ne peut pas honorer un tel personnage, on ne peut pas promouvoir la torture, les mauvais traitements, qui sont des actes de barbarie et des actes criminels condamnés par le droit. On ne peut pas non plus promouvoir la colonisation, parce que ces guerres sont des guerres d'indépendance. Donc, Bijard, il est intervenu contre des personnes qui revendiquaient leur indépendance en tant que peuple. Et donc, la colonisation qui instaure l'inégalité en principe et qui est à la source de beaucoup de racisme.
Alors, pardon, je vous laisse poursuivre.
Oui, et donc par rapport à... C'est pour ça aussi que nous souhaitons que notre action, elle soit largement diffusée et on est aussi soutenu par de nombreuses organisations et associations parce qu'on considère que dans la lutte contre le racisme et les idéologies d'extrême droite qui fracturent la société actuellement, la colonisation est bien souvent à la source de leur mode de pensée. Et nous considérons qu'installer un symbole de ces modes de pensée dans l'espace public, c'est donner un très très mauvais signal pour l'avenir et de notre ville, et de nos enfants, et du pays.
Alors justement, ce projet a commencé à être largement relayé dans les grands médias nationaux, national.
Oui.
Et justement, il y a une action qui se profile donc à Nancy, en plus sur un lieu qui est quand même emblématique, la place Nelson Mandela. Vous pouvez nous en dire davantage notamment au niveau de l'heure et puis au niveau des sites où nos auditrices et nos auditeurs pourraient se référer, et, enfin disons toutes les informations concernant cette action le 25 mai à 16h, donc place Mandela.
Voilà, donc vous avez bien redonné la date. Donc à Nancy, le 25 mai à 16h, place Nelson Mandela, c'est l'espace qui se trouve entre la place Stanislas et la Pépinière. Et donc on appelle, nous, avec de nombreuses organisations, je peux vous en citer quelques-unes, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme de Nancy, l'Association des travailleurs maghrébins de France, de Vendeuvre, le réseau Éducation sans frontières, Amnesty International Toul, l'association France-Palestine Solidarité, ATTAC, le syndicat des avocats de France, la Fédération de la Libre Pensée, le MOC, le Mouvement des Objecteurs de Conscience, le MAN, le Mouvement pour une Alternative Non Violente, la France Insoumise 54, le PCF 54, le NPA 54, Europe Écologie Les Verts Lorraine, Sud Solidaire 54, la FSU 54 et la CGT des Territoriaux de Toul. Et un groupe d'anciens combattants contre la guerre qui s'appelle 4ACPG. Donc notre but, si vous voulez, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que nous refusons d'honorer un personnage symbole de la torture qui a été instauré par l'État en système pour terroriser et soumettre la population. Nous considérons que c'est important pour que respecter la mémoire également de nos voisins, collègues, amis et dont les familles algériennes ont pu souffrir de ces pratiques et de ces politiques. Et nous considérons également que sur ce terreau colonialiste prospèrent les idéologies xénophobes avec des relents négationnistes et dont les partisans s'opposent à la reconnaissance par la France des erreurs de son passé colonial. Donc on appelle donc la mobilisation la plus large possible. On aimerait aussi une participation des artistes, si tant est qu'ils soient disponibles, de musiciens, etc. Donc on est encore en phase d'organisation plus matérielle, j'allais vous dire. Alors après, toutes les informations, vous pouvez les retrouver dans la pétition qu'on a lancée. On a une pétition sur le site change.org.
Alors, est-ce que vous pouvez épeler le site, s'il vous plaît ?
Alors, je vais vous dire le titre de la pétition. Elle s'appelle « Pas de statut de Bijar ». Et donc, c'est sur le site change.org, change.org. Donc, dans la pétition, vous allez trouver énormément d'informations historiques. Vous allez trouver des émissions sur Radio Déclic, la captation de la conférence des écrivains Fabrice Rissé-Putti et Alain Ruscio, et toutes les infos nécessaires pour comprendre notre démarche et nous rejoindre.
Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez à nouveau rappeler peut-être le site pour nos auditeurs s'ils si n'avais pas eu le temps de sauter sur un stylo. Alors,
change.org. Et dedans, dans la barre de recherche, vous tapez « pas de statut de Bijar ».
Eh bien, très bien. Donc, rendez-vous le 25 mai à 16h, place Nelson Mandela, donc entre la Pépinière et la place Tannes. Et l'intitulé de votre collectif, peut-être, vous nous le rappelez également, puisque vous êtes membre du collectif.
D'accord, le collectif, c'est le collectif Histoire et mémoire dans le respect des droits humains.
Histoire et mémoire dans le respect du droit humain. Voilà, je pense que le titre dit beaucoup de choses en lui-même.
Oui, c'était un petit peu le but.
Eh bien, merci Madame Isabelle Marc, donc membre du collectif Histoire et mémoire dans le respect du droit humain. Merci à vous et à tous ceux qui ont permis effectivement cette action de sensibilisation citoyenne.
Je vous remercie, vous personnellement, et puis également RCN qui nous a donné une audience importante ces derniers temps.
Merci encore à vous. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Un enfant de la ZEP, fils du cosmopolitanisme, l'ado dépressif d'Erasmus, je t'explique le concept. Le métissage est mon esquisse, les accents sont mes épices. Choisis ta langue, ma belle, l'important c'est qu'on se roule des pelles. Choisis tes mots, mon bel ami, et si tu veux, je t'embrasse aussi. Je ne fais pas de différence, mais ne tire pas ta révérence. Parce que je suis européen, j'en suis pas fier, mais j'y peux rien. Trop de tu l'auras, alors tiens, je vais détruire les murs de Berlin. Je suis européen, plus ou moins, c'est la même loose en anglais. European today, I will do my own way. Oh yeah. Je Le sens stupide est contagieux maintenant qu'on est là, distrayez-nous, donnez-nous du pain et des jeux, du vin et la peur de nous. Ils ont bon dos nos musulmans, ils sont beaux nos foutus ministres. Racistes à gauche, à droite, choisis ton camp, sale temps pour les idéalistes. Fatal, fracas, France, haine, fasciste. La finance gave l'Europe au Parlement, mais nos nationalistes ils squattent les bancs. Pourtant, bizarre non? Pas le choix, je suis européen, mais vous en rire, car c'est acquis, trop de paroles, trop de parties pour séparer qu'à la Paris. Je suis européen, les amis, ça vaut la coupe, mais vous aussi, je n'aime que ta tête qui faire les chistes, trop de riches, braves biches. Allô cavalier, ici Goblin, on est dominé par les thunes, on est géré comme du bétail, ils ont les tables, on a la paille. Allô Erasme, ici personne, c'est la guerre des nerfs aux frontières, la spéculation des raisins, les évadés fiscaux prospèrent. Toi, vieux continent peureux, t'as peur des étrangers, sérieux? As-tu oublié que ton histoire se décline en flux migratoire? Et toi, vieux continent mesquin, tu t'habilles en peau de chagrin? Toi qui as dépecé l'Afrique, tu caches ton fric dans des coins chics. Est-ce que vraiment ce continent nous vend une arnaque historique? Question rhétorique. L'histoire c'est que je suis européen. Les indignés se déritent, trop d'arrogance dans le gratin. Battons les pavés à Madrid. Je suis européen, je serre les poings, nuit debout vers d'autres matins. Son indignado des pieds, il est des rages que rien n'éteint. Je suis européen, bonhomme, citoyen du monde, c'est tout comme elle a sa chance de notation. En frôlée, en pâture à Rome, je vois bien là, dans l'arène, elle regrette les triple A. Ils ont généré tant de haine, alors ciao, ciao la Dolce Vita. Mamma mia. C'est pas tout, je suis européen, si on s'est joué comme à Dublin, il paraît chiant, c'est voyou, et nous sommes à genoux. Levons-nous, soyons dignes de la Boétie, juste à la war campagne, hors du marasme de l'apathie, tout est à faire, rien n'est écrit. J'ai pas fini l'Europe des peuples qu'on délaisse et celle des patrons qui s'engraissent. L'Europe aux frontières fermées, pourtant si ouverte au marché. Des régressions et des regrets dans un système dérégulé qui s'engraisse sur le dos de la Grèce quand les grossiers financiers sont graciés. Tu es l'Europe dans le dédale, tu es la peine des capitales, tu es la peur des gens perdus, tu fais la honte des gens déçus. Je suis en quête et j'ai la dalle, bouffer ce système obsolète. Nous vivons dans un scandale, oh mon Europe. Oh mon Europe, es-tu prête? 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 Oh mon Europe.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Nous venons d'entendre Fabergo qui chantait l'Européen. Donc, pour mémoire, les élections européennes ont lieu le 9 juin. Et puis, dans cette période du mois de mai, puisque vous écoutez Brassage du 23 mai à 10h avec une rediffusion à minuit, et ensuite, vous pouvez avoir cette émission en podcast sur www.rcn-radio.org. Eh bien, sur ces périodes du mois de mai jusqu'au 26 mai, il y a donc en mai Fête l'Europe avec des jeux, des animations, des parcours européens, expositions, spectacles, rendez-vous sportifs et culinaires. Donc, tout simplement, par exemple, le 25 mai, c'est à Haussonville que ça se passe. C'est décliné effectivement dans les différents quartiers du Grand Nancy. Alors, vous avez aussi beaucoup d'animations gratuites. Le 24 mai, c'est à la rue Guy Robarts. C'est des jeux pour faire connaître l'Europe. Donc, c'est dans le quartier de Bourgard. Vous avez aussi, donc, dans toutes ces périodes du 25 mai jusqu'à le 26 mai, mais le 25, par exemple, il y a un escape game extérieur, les jeux européens, c'est de 11h à 16h, c'est dans le quartier des Trois Maisons, et ça se trouve Jardin de Solignac. Enfin, pour en savoir davantage, vous pouvez aller sur le site nancy.fr/mai de l'Europe. Dans cette période, justement, de famé, eh bien, nous sommes dans la semaine de la nature et je vous propose un entretien que nous avions eu dans nos studios à RCN avec Reynald Rigolo, qui, là, dans l'extrait que je vous propose, eh bien, ce sont les grandes missions dans cette période 2024 et plus particulièrement des rendez-vous qui nous sont proposés, donc, sur le mois de mai et le mois de juin 2024. Alors, pour justement continuer cette présentation de Flore 54, est-ce que tu peux nous dire les grandes missions, entre guillemets, que vous vous êtes données, et puis nous les déclinerons d'une façon un peu plus précise ultérieurement.
Alors nous, on le dit souvent parce qu'on accueille beaucoup de jeunes. D'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse dire un tout petit mot sur tous les jeunes qu'on accueille à Flore 54. Service civique ou stagiaire, j'en accueille encore une nouvelle stagiaire lundi. Donc on a quatre missions essentielles. Donc nous, on est en tant que fédération, on est animateur de réseau, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'information, on prend des contacts, on organise des réunions, par exemple entre associations et collectivités. Voilà, on est l'impulseur d'une dynamique de territoire avec les associations, avec les citoyens et certaines collectivités aussi, avec qui on travaille très bien, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, on représente les citoyens et les associations dans bon nombre de structures de concertation, que ce soit dans les communautés de communes, dans les communes, dans le conseil départemental, la métropole du Grand Nancy, et aussi la préfecture, avec un bémol pour la préfecture, puisqu'on boycotte les commissions depuis 18 mois pour non-prise en compte de nos nombreuses remarques et propositions.
Oui, parce qu'en fait, comme justement dans d'autres associations, souvent on vous laisse à la limite un strapontin, alors que vos arguments sont largement étayés et on n'en tient pas compte. Donc en fait, c'est pour dire si vous êtes présent. Ah, mais si, ils étaient présents et malgré tout, on s'assoit dessus.
Alors c'est ça. Et puis pour peut-être éclairer les auditeurs, c'est que nous, on travaille pas pour nos intérêts personnels, contrairement à des projets qui soient économiques, touristiques, de commerce. Nous, on travaille pour le bien commun. On est là pour défendre la nature, protéger la nature. On n'est pas anti-tout, contrairement à ce qu'on dit des fois, on n'est pas des éco-terroristes. Enfin, j'ai plein de têtes d'éco-terroristes. Hein. Je suis devant toi, je te fais pas peur, parce que tu souris. Mais voilà, donc le fait, c'est que nous, on défend le bien commun, donc on a toujours une vision très très large. Alors quand on a, par exemple, affaire à des préfectures, services préfectoraux, ou des collectivités, eux, ils se limitent à leurs limites communales. Eh bien, la biodiversité, par exemple, la faune, la flore, elle ne connaît pas les limites communales. Quoi. Ça, c'est une invention de l'homme pour cantonner l'homme dans un circuit géographique déterminé. Mais ça n'a aucun sens. Dans bon nombre de cas, quand on veut parler de circulation des espèces, quand on veut parler protection des espaces, quand on veut parler de corridors écologiques, quand on veut parler de trames, qu'elles soient vertes, qu'elles soient bleues, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient brunes, enfin, c'est toutes des trames. C'est toutes les études un petit peu des territoires. Donc ou les paysages par exemple, on ne peut pas se cantonner à étudier les paysages si on travaille que sur une seule commune.
Alors d'une part, il n'y a pas de limite géographique et puis il n'y a pas non plus de limite de temps parce qu'effectivement un acteur politique, lui, il verra horizon prochaines élections à la limite.
Oui, tout à fait.
Alors que la décision qu'il prend ou qu'il ne prend pas, s'il ne la prend pas, ça revient à la prendre quand même d'une certaine façon en creux. Ça impacte les dizaines d'années futures, voire les générations largement au-delà de ces 10-20 ans.
Alors c'est toute la problématique de l'économie quand elle est sous l'aile ou sous l'impulsion du libéralisme. C'est un peu à ça qu'on est confronté, que ce soit localement, que ce soit régionalement, que ce soit nationalement, que ce soit mondialement. C'est ça le problème de fond. Et on l'a bien vu, si on revient sur le sujet du problème des agriculteurs, qui galèrent depuis des années. Nous, on a une vision qui est citoyenne, qui est à part entière pour le bien de tout le monde, et on ne peut pas continuer à détruire, à déstructurer les espaces, les paysages, la nature, polluer les sols, l'eau et compagnie, ou l'air, sans rien faire, sans bouger. Donc nos réactions, elles sont à la hauteur des enjeux.
Il y avait donc trois points, animation des réseaux, représentation des citoyens par rapport à la formation des jeunes gens.
Et puis donc le quatrième point, c'est tout ce qu'on fait en animation. Alors les animations, ça couvre les sorties nature, ça couvre des conférences, ça couvre des participations à des manifestations, à tenir des stands. Ça participe à faire des études dans le cadre de partenariat, pour y revenir, on a de très très belles études qui vont être mises en œuvre, qui ont d'ailleurs débuté en 2024, là, après de très beaux résultats en 2023 sur d'autres sujets. Voilà, donc et puis on a, entre autres, on crée une dynamique et aussi un enjeu au niveau des jeunes, parce qu'ils travaillent énormément à la réalisation d'outils pédagogiques, donc c'est très important. Et le plus beau et le plus important qui a été fait par des services civiques et des stagiaires sur lequel j'ai tutoré le projet, c'est le fameux livre sur la forêt de haies qui est sorti il y a 3 ans.
Alors j'aimerais bien, avant que tu nous parles des projets, que tu déclines quand même les 8 collectivités territoriales, collectivités de 54, parce que ça peut donner des idées à d'autres. Et puis pour nos auditrices et nos auditeurs, ben, qu'ils sachent que leur collectivité est adhérente de Florence 54 ou n'est pas adhérente de Flore 54, et pourquoi pas solliciter leurs élus pour qu'elles le deviennent. Est-ce que tu peux nous citer ces 8 collectivités ?
Alors je peux les citer, mais ce n'est pas un simple plaisir de devenir adhérent, il y a des règles.
Ah bah bien
voilà,
sûr.
Donc il y a des règles, oui, c'est fonction de ce que fait aussi la mairie. Voilà, donc,
oui, ce n'est pas du greenwashing.
Hein,
une bonne conscience écologique uniquement en faisant un chèque d'adhésion. Hein.
Ça ne marchera pas, pas avec nous en tout cas. Voilà, donc la plus grosse des collectivités qui est adhérente, c'est la ville de Vendôme depuis des années. Et on monte de beaux projets, on pourra reparler des projets, on en a encore un assez important avec elle qui va commencer, qui a commencé en début d'année 2024. Qui est une poursuite aussi de ce qu'on a déjà fait en 2023. En deuxième, on a Maxéville, on a Laxou, on a Lenoncourt, donc des communes du rural, on a Richard Ménil, on a Mamet, on a Dame-le-Vierre, et on a Gondreville. Et puis on a encore quelques contacts, mais le fait, on essaie de voir, de discuter aussi, puisque de toute façon, la première adhésion dans une association, la collectivité, elle doit présenter une délibération.
Bien
voilà,
sûr.
Donc, et ça ne se fait pas n'importe comment, c'est réglementé. Hein, voilà, donc on respecte ce protocole et on est aussi vigilant à ce que font les communes. On ne leur demande pas d'être parfaites, parce que nous, on ne l'est pas non plus. Mais voilà, on leur demande des engagements au niveau de la biodiversité, de l'environnement et avec celles avec qui on a travaillé. Ça se fait très bien, voilà. Et on a de très bonnes relations, justement, que ce soit avec les élus, les techniciens, on travaille très très bien. Donc, ça prouve aussi à un certain monde qui est un petit peu en dehors des clous que c'est possible.
Alors, justement, ces projets.
Alors, les projets, on en fait des nouveaux chaque année. Mais grosso modo, sur l'année 2024, donc ils sont lissés dans le temps, on va avoir un projet inventaire des hirondelles sur la métropole du Grand Nancy. Donc on fait un inventaire des nids d'hirondelles, les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Lorraine les hirondelles de cheminée. Donc sur les 20 communes, on fait de la prospection, on travaille pour l'instant déjà avec 12 communes sur 20, on a relancé d'autres, on travaille avec nos associations partenaires, et on a donc une démarche participative, parce que notre objectif, nous, c'est de mener des projets en démarche participative. Mais la vraie démarche participative, pas celle qui fait de l'affichage. Alors ça, c'est un gros projet qu'on mène qui va être jusque début juin, jusqu'à la fin du printemps, début de l'été. Et après, si on a des stagiaires qui sont compétents, qui pourront travailler sur le domaine, on fera aussi, on poursuivra par un inventaire d'occupation des nids et de reproduction. On l'a déjà fait un petit peu l'année dernière sur quelques sites particuliers. Et c'est tout à fait important parce que des nids d'hirondelles, ça disparaît à une vitesse grand V. Et on les détruit. On a par exemple 2 cas actuellement où il y a eu des destructions d'hirondelles. Donc on fait des recours pour des compensations. Et si les gens ne vont pas en compensation, ben il y a risque de condamnation à 2 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Enfin, c'est la peine maximum. Voilà. Donc ça, c'est un gros, gros projet. On a 2 projets avec 2 collectivités, les 2 plus grosses du département, dont Vendôme qui est adhérente et Nancy avec qui on mène maintenant de nombreux partenariats. On va faire des inventaires sur certains quartiers de sauvage de ma rue, c'est les plantes de trottoir.
Ah !
Et on a eu un exemple l'année dernière sur 2,5 km à Vendôme. Notre étudiant stagiaire en master a trouvé 170 plantes différentes.
Alors,
c'est énorme.
Au départ, quand tu as dit sauvage de ma rue, je me suis dit c'est peut-être une fleur, une plante qui s'appelle comme une pédoncule. Non, c'est sauvage.
Les sauvages de ma rue.
Ma rue.
Voilà, c'est un protocole qui est mené par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà, donc on suit ce protocole. En sachant, je rappelle que les hirondelles ont fait le protocole avec le parc régional de Lorraine, qui a déjà beaucoup travaillé là-dessus, dont je tenais à le souligner, j'avais oublié. Donc, sauvage de ma rue, on va faire sur Vendôme et Nancy. Donc, ça a déterminé. Donc, on va très, très bientôt, on va déterminer les lieux. Mais toujours est-il, on va aussi avoir une démarche participative. À titre d'idée, On va demander aux jeunes, quand ils relèvent des plantes, et je vous dis, l'année dernière, sur 2,5 km, on a trouvé 170 plantes, on va écrire sur le trottoir le nom des plantes, de manière à habituer les gens à reconnaître les plantes.
Et puis,
par exemple, c'est un exemple, mais il y aura d'autres choses.
Et voilà. À les préserver, parce que justement, moi, je me suis surprise à découvrir que les bords de trottoir, qui longent les murs, etc., il y avait des plantes qui étaient préservées, puisqu'effectivement, auparavant, si elles n'existaient pas, c'est qu'elles étaient enlevées ou brûlées. Mmh. Et puis, il y en a certaines qui fleurissent. Magnifique.
Oui, oui, bon, après, c'est un peu de verdure. Je connais quelques maisons, ils laissent pousser par exemple des roses trémières qui font 2,50 m, 3 m. Elles ont la fraîcheur des murs, elles n'ont pas besoin d'eau. Voilà. Donc ça, c'est un gros projet qui nous tient à cœur, le deuxième. Le troisième, c'est une action qui a débuté fin 2023, qui va se poursuivre jusque mi-2024. On travaille avec le Conservatoire des espaces naturels pour voir la zone de présence de la vipère aspic. Sur le nord du département et le nord de la Moselle.
Je vais redire les choses parce que moi, comme j'aménage, que j'entends, comme les sauvages de ma rue, je pensais que c'était une plante. Non, les sauvages de ma rue. Alors.
La vipère aspic.
Ah, la vipère aspic. Alors.
Dans le nord du département de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, on va aller. On contacte donc les communes, on va dans les archives, on va chercher les documents. Pour savoir quand elle y était, puis il y a une époque jusque dans les années 60, on le sait très bien, parce que ceux qui ramenaient leurs vipères ou les couleuvres à la mairie se faisaient indemniser, ils avaient une prime.
Ou à la pharmacie, puisqu'ils prenaient...
Oui, à la pharmacie, c'était bien avant, mais voilà, c'était surtout les communes. Donc là, on essaie... Pourquoi c'est important? C'est un partenariat qu'on a avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, tout simplement parce que c'est la zone au monde où la vipère aspie est la plus haute par rapport au pôle Nord.
Ah bon?
Voilà, donc c'est une particularité de la Lorraine, voilà, qu'on a encore. Donc on a un jeune qui est un peu spécialisé, d'ailleurs, début février, il a fait 15 jours de formation dans un organisme spécialisé sur, effectivement, les reptiles. Voilà, donc on essaie de mener cette étude, on amènera les éléments, les transmettra au conservatoire, où ils ont une commission reptiles et amphibiens, hein, voilà, donc c'est eux les spécialistes. Mais par contre, on fait de la prospection pour eux. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est un sujet, moi, qui me plaît bien parce que c'est original. Et puis, la vipère aspie, il ne faut pas croire, elle n'est pas mortelle. Elle est rarement mortelle. Je crois qu'il y a deux morts. Je crois qu'il y a deux morts de vipères. Il y a deux morts de vipères par an en France.
Oui, elle est rarement mortelle. Alors
je suis désolé, on n'a jamais supprimé le ski, par exemple, oui. Où il y a 50 ou 70 morts.
Oui, voilà. Oui, donc, on parle pas de la voiture.
Par exemple, ou les piscines, enfin oui, pas les piscines, les bords de mer avec les noyades.
Les piscines, voilà, les piscines exemple, domestiques.
Donc
quoi.
Il faut relativiser
oui, tout
aussi.
À fait, tout à fait.
Alors c'est sûr que c'est impressionnant quand on voit une petite bête comme ça. Mais bon, bien souvent, on confond aussi la couleuvre et la vipère, même si elles n'ont pas les mêmes formes. Elles n'ont pas les mêmes longueurs, elles n'ont pas la même tête,
oui,
les yeux.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est le troisième grand projet. On a un quatrième projet qui a débuté 2024. Ça s'appelle les MIMS Nature.
Alors, on est peine.
MIMS. M-I-N-S. Nature.
M-I-N-S. Alors.
MIMS Nature. Donc, ça, ce sont des petites vidéos de 1h30 à 2 minutes.
Ah.
Qui sont visibles sur le site Instagram.
De 1 minute 30 à 2 minutes
à peu près, voilà. Donc, ils sont faits par nos jeunes. Donc là, ils s'éclatent dans ce domaine.
Sur Insta, donc.
Donc, il y a Instagram, il y a le site Internet, il y a YouTube. Voilà. Et donc là, c'est pour parler de la nature. Donc, un coup, ils vont parler de l'eau. Un coup, ils vont parler de la différence, justement, entre une vipère et une couleuvre. Entre un hibou et une chouette. La chouette, c'est pas la femelle du hibou, par exemple. Voilà, donc il y a tous ces... Voilà. Donc, ça va être très, très court, mais ça va être dynamique. Parce que les jeunes ont estimé qu'il fallait qu'on rajeunisse un petit peu.
La communication.
Les impacts par rapport au public sur lequel on peut toucher. Donc moi, je leur laisse un peu carte libre avec mon conseil d'administration. Et voilà, ils sont en train de nous faire ça. Ils s'éclatent bien, ils sont contents, nous aussi. Voilà, donc ça va créer une dynamique supplémentaire.
Alors surtout pour des auditrices ou des...
Derrière nous, il y a quelques années, un cadre commercial qui a pris sa retraite, qui s'est mis à faire de la photo. Je ne dis pas qu'il est pratiquement le photographe officiel de Flore 54, mais ça nous a beaucoup, beaucoup aidé dans la communication, dans les réseaux, dans la proposition d'affiches de sensibilisation. Et voilà, donc vraiment, il y a des gens comme ça qui sont venus nous aider au fil des années. Et nos effectifs grandissent en adhésion. Donc beaucoup de personnes ressources, pas qu'en photo, hein, bah, dans tous les domaines. Dans on tous a des professeurs d'université, on a des chercheurs, voilà. Donc,
ou même, quelle que soit votre implication, puisqu'on a besoin de petites mains, à la limite, je dis n'importe quoi, si vous êtes juste, adepte à éplucher des carottes, bah, pourquoi pas, parce qu'à un certain moment, quand il y a des grands événements, bah, il faut aussi des petites mains pour faire les repas. Il y a plein de choses. Toute contribution est possible.
Donc au-delà de ça, et puis donc des sorties, des conférences, on en a un programme assez fourni et varié qui change d'une année sur l'autre. Par exemple, la première sortie de l'année, on a autorisé 40 personnes à venir et on a refusé 35 personnes. On avait 75 inscrits pour aller visiter les deuils du Toulois. Enfin, c'est un phénomène incroyable, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on n'a pas diffusé dans tout le réseau. Quoi. On a limité l'information. Mais on était submergés de demandes pour cette sortie.
Moi, je reçois les mails et des fois, je me dis, bah oui, ça va être... Oh, bah, je me dis non. Si je réagis une semaine avant, je pense que c'est déjà overbooké. Ouais,
c'est très, très rapide. En 36h, 48h, les sorties, par exemple, elles sont complètes. Voilà. On est pratiquement les rares. D'ailleurs, on nous envie un petit peu. Hein. Quand je vois des fois, parce qu'on travaille aussi avec la Cité des paysages à Sion, quand ils annulent des sorties parce qu'ils n'ont pas de monde, après... Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est pas le même fonctionnement, donc c'est pas une critique, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et puis juste, si vous voulez, donc peut-être, il y a plein d'autres projets pour 2024, mais il y en a un autre qui est important, et qui normalement devrait satisfaire beaucoup, beaucoup de monde, en lien avec le gros projet Trambiosol qu'on a fait sur la métropole du Grand Nancy, à creuser des fosses pédologiques, à faire des analyses de sol, de la démarche participative, d'accueillir une quinzaine de jeunes sur ce projet en formation cursus universitaire, où on a sorti, suivant le temps, un livret pédagogique de 60 pages sur la vie des sols. Donc un livret ludique qui peut intéresser les petits comme les grands, et pour faire comprendre les sols, parce que c'est un des éléments de la nature qu'on connaît le moins, et c'est le plus important. Sans les sols, 80% de la vie sur Terre n'existerait pas.
Et le sol, il ne fait pas des centaines de mètres d'épaisseur.
Non, et un sol, on peut le détruire en moins de 10 ans. On l'a l'exemple, par exemple, au niveau de l'agriculture. Et pour reconstituer un sol complet, il faut 1000 ans.
Et ça, on fera juste un petit aparté avec l'actualité. Et Dieu sait si effectivement, il y a agriculteurs et agriculteurs. Hein, il y a les gros céréaliers, eux, ils n'ont pas des problèmes de fin de mois.
Pas que céréaliers, betteraviers aussi.
Oui, enfin les gros, je veux dire. Et puis, les petits, et la fausse bonne solution, c'est bien sûr le maintien des pesticides, alors qu'il y a progressivement, ça fait déjà quand même une paire d'années, qu'il y a un travail de recherche et d'application qui montre qu'il y a on peut substituer à ces produits toxiques et mortels. Hein. Mortels déjà prioritairement pour ceux qui les utilisent aussi. Là, c'est aussi des fausses bonnes solutions, comme par exemple des compléments d'activité, comme les méthanisations. Est-ce que tu peux nous en toucher juste deux mots, ou au moins citer une personne qui a fait une conférence à Toul récemment?
Alors, la méthanisation, pour nous, on est plutôt dans une logique de méthanisation raisonnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en opposition systématique à la méthanisation. Par contre, l'ampleur que ça a pris ces dernières années, où ce sont des groupes industriels, Engie, enfin, d'autres pour les citer, je ne sais pas si j'ai le droit. Tout mais sûr. Grosso modo, voilà. Donc eux, ils font de l'industrialisation. Et ça pose différents problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les sources d'approvisionnement, il faut aller les chercher sur l'accaparement de terres agricoles.
Qui devrait servir à l'alimentation, par exemple, dans
l'Unévinois, où plusieurs agriculteurs, accompagnés par des groupes, je ne vais pas les citer, ont créé une grosse unité de méthanisation et il leur faut 200 hectares de maïs tous les ans. Donc c'est 200 hectares de terre qu'on cultive en maïs uniquement pour alimenter le méthaniseur. Mais quand on dit maïs, on dit engrais, on dit produits phytosanitaires, herbicides, pesticides, on dit pollution des sols, tassement des sols, pollution de l'air, pollution de l'eau. Là, le résultat. Et le résultat, c'est qu'au bout de dans 10 ou 15 ans, on va avoir un certain nombre de communes de France, et certainement beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, où l'eau sera impropre à la consommation par rapport à la pollution.
Mais on pourra refaire d'autres émissions, alors que la méthanisation, je me souviens d'un dossier qui était passé sur la 5 ou sur la 2, sur la méthanisation, moi, que j'appelle domestique, c'est-à-dire comme maintenant, début 2024. Théoriquement, tous les déchets verts devraient être ramassés à part. Et là, ça permet effectivement d'utiliser, c'était une ville de plusieurs milliers d'habitants, ou même 50 000, ils arrivaient à produire de l'électricité uniquement en utilisant les déchets verts de la commune qui n'allaient pas justement dans des centrales pour être brûlées, mais qui étaient méthanisées. Et là, on n'utilisait pas des surfaces agricoles spécifiquement pour ça.
Mais on peut, si on regarde de près, sans vouloir polémiquer ou restreindre tout, quand on utilise des coupes d'herbe de bord de route et qu'on méthanise, c'est rempli de polluants, de plomb par rapport au gaz d'échappement. On retrouve ça dans le méthaniseur, mais on retrouve ça dans l'épandage des digestats sur les sols. Donc vous voyez, ce cercle vicieux, il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc nous, on a la chance d'avoir des très très bonnes relations, moi particulièrement aussi, avec Daniel Châtaignier, qui est de l'Université de Caen, et qui est donc le président du collectif national pour une méthanisation raisonnée.
Alors Daniel Châtaignier, donc, ça, il s'inscrit comme l'arbre ?
Oui, voilà.
Ah ben c'est
GNER à la fin. Oui. Voilà. Donc c'est un chercheur de l'Université de Caen qui en a fait une de ses activités préférées, où lui, il recense tous les incidents de méthanisation qui existent en France. Et donc, il fait des conférences. On l'a déjà eu en visio, on l'a eu en conférence à Toul. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui explique un petit peu toute cette mécanique, où il y a des grands groupes aussi qui s'accaparent des subventions régionales. Par exemple, une méthanisation en Grand Est, c'est minimum 500 000 euros de subvention de la région. Minimum. Donc ça pose quand même problème, c'est-à-dire qu'on utilise de l'argent public des citoyens pour des activités qui sont purement productivistes et qui sont purement lucratives. Donc ça pose quand même question sur le fond d'une si forte subvention.
Alors avant de nous quitter, de nous donner justement les sites où on peut retrouver un maximum d'informations sur les différentes activités de France 54, est-ce que tu peux nous parler d'une part du principe de ces conférences qui sont dans le principe un peu arrêté mensuel, je pense à celles qui se font à l'Axou, et d'autre part également nous donner le programme du premier semestre 2024?
Alors, donc en mi-février a eu la 70e rendez-vous nature de l'Axou. Donc c'est beau ça, c'est la 14e année qu'on fait, c'est un truc unique dans le Grand Est, voire en France. Il ne faut pas l'oublier. On pense que fin 2024, on ne devrait pas être loin des 10 000 spectateurs. Donc pour des conférences, c'est quand même assez énorme. Donc parce nos salles, fait... on a toujours entre 120 et 150 personnes.
Oui, parce que c'est une salle qui se trouve tout près au centre de l'Axou
Village,
du vieux l'Axou, de l'Axou Village, à côté de l'église, on la repère bien.
En face de l'église.
Il y a des parkings sans problème, des transports communs qui permettent.
Il faut marcher un petit peu, mais voilà.
Oui, non mais... La salle, donc, c'est 150 personnes. Par... Oui. Et donc, en général, ça se passe à partir de quelle heure?
Alors, on fixe 6 rendez-vous nature tous les ans. Il y en a 4 au premier semestre et 2 à l'automne. Et c'est toutes les conférences se font les vendredis à 20h.
Voilà. Et donc, on peut retrouver toutes ces informations sur quel site?
Alors, on retrouve ces informations sur le site internet de Flore 54. Donc, qui est flore54, attaché, flore54.org.
On peut retrouver... Alors, 54, c'est avec le chiffre 5 et 4.
Oui, 5 et 4, pardon. Mmh. On peut retrouver ça sur Facebook de Flore54, sur Instagram. Et puis donc, bien sûr, on a un mailing assez conséquent de plus de 8000 adresses où on diffuse largement nos informations, ce qui nous permet effectivement d'avoir ce succès sur certaines opérations telles que les sorties nature. Voilà, donc, puis en plus, on a de très bons relais au niveau des médias, tels que RCN, par exemple.
Mais pas que, voilà, tous.
C'est vrai qu'on a de bonnes
relations. Vous écumez tous les médias, vous avez raison.
Voilà, depuis début 2023, on est passé plusieurs fois à France 3 en direct sur des problèmes d'actualité. L'Est républicain aussi se fait souvent l'écho des activités et des présences de jeunes en service civique, en stagiaire. Donc, ça leur fait énormément plaisir et ça les valorise. Donc, on est très contents, voilà, donc... Tout se passe bien. Donc, nos conférences, on en a 4. Elles sont programmées jusqu'à la fin du premier semestre.
On peut avoir les titres.
Alors, c'est la mine du Warn qui passe donc mi-février.
Donc, elle sera déjà passée.
Elle est passée. Donc, c'est une conférence qui va examiner un petit peu les recherches qui ont été faites dans la mine du Warn. C'est près de Saint-Avold. Donc, c'est une association qui s'appelle le GECNAL du Warn.
Ah oui, GECNAL.
Voilà, c'est le GECNAL. Donc, c'est une très, très vieille association.
NAL,
voilà.
Oui.
Donc, il y a la biodiversité qu'on retrouve à l'intérieur d'une mine. Voilà, donc il y a des mousses, il y a plein de choses. Voilà. La suivante, en 2024, c'est l'intervention de Fabrice Caez. Il va nous faire un super photographe, naturaliste, conteur, qui est de Tignicourt, près de Vittel, qui va nous faire une conférence sur les oiseaux des marais.
Est-ce que tu as les dates déjà ?
Une bête particulière qui s'appelle le sonneur à ventre jaune.
Ah, c'est la...
Le fameux petit crapaud.
D'accord.
Voilà, donc avec un spécialiste qui s'appelle Damien Maître, qui est spécialiste du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine.
Et en juin ?
Et en juin, alors je crois, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le 16, enfin c'est le vendredi, autour du, ou le 16 juin ou autour. Donc on attend la confirmation des conférenciers. Mais là, on va parler aussi d'une chose extraordinaire qu'on ne connaît pas trop en Lorraine, ou certains connaissent, mais pas beaucoup, et ça mérite d'être connu. C'est donc la disparition de la rivière Larof et les résurgences avec les deuils, avec la problématique de la capture de la Moselle, qui a un effet géologique qui est à peu près 500 millions d'années. Puisque, pour exemple, la Moselle se jetait dans la Meuse, à Pagny-sur-Meuse, à une époque. Et quand elle est venue taper contre le massif de Haye, elle a d'ailleurs créé des grottes. Hein, on trouve des grottes à Maron, à Villers-le-Sec et tout ça, Pierre-Latrèche. Et puis le Terroin, donc à Villers-Saint-Étienne, sont venus creuser petit à petit. La Moselle s'est déplacée de se jeter dans la Meuse pour se jeter dans la Meurthe à Frouard, l'Yverdun.
Eh bien, de tout ça, nous en reparlerons en temps voulu, auditrices et auditeurs. Et puis, on va dire un grand merci à Reynald Rigolo.
On n'est que des bénévoles, on l'oublie toujours. Parce qu'on m'a encore demandé dernièrement combien je touchais pour faire ce que je faisais.
Maximum. Hein. Voilà. Vous verriez, là, il est habillé en Gucci. Hein.
Voilà, donc venez nous aider. Écoutez, c'est passionnant. On rencontre... Enfin, on vit, quoi. Voilà, donc...
Merci encore à toi et merci à toutes les personnes de Flore 54. Alors merci aussi à toutes les autres associations, je pense notamment à l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye. Et toutes ces associations, bien certainement, vous pourrez les retrouver le dimanche 26 mai en l'après-midi au parc de Graffigny à Villers-les-Nancy, puisqu'il s'y passe justement cette fête de la nature sur le Grand Nancy.
L'oiseau est libre, il vole auprès de ceux qui rêvent encore de bleu dans le ciel. Pourtant il a peur de ces montagnes qui lui diront de renoncer au chemin qu'il doit suivre. Mais le vent le guidera plus loin que sa raison, et il lui indiquera où trouver sa maison. L'oiseau meurt de ne pas trouver sa voie dans ce brouillard. Alors il se cache dans un arbre dont il ne reviendra pas. Une lumière au loin l'appelle, mais il ne la verra pas. Il ne sait plus comment voler. Peu importe, le vent le guidera plus loin que sa raison, et il lui indiquera où trouver sa maison.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Brassage du 23 mai avec des bons plans aussi, comme par exemple jeudi 30 mai à 17h, donc cette conférence gratuite au Cercle du Travail, donc à côté de la Porte Saint-Georges à 17h. Et le thème est la chanson au temps de la guerre froide. Alors la chanson que vous venons d'entendre, eh bien, c'est une chanson du Suite Mess Story, et donc le titre est L'Oiseau, et entre autres, eh bien, c'est une personne qui travaille à la technique à RCN, Joris, que nous remercions, et qui a participé justement
à certains enregistrements de ce brassage. Alors, je vous lis, en première page quasiment de Aux Actes Citoyens, qui se termine le 25 mai à Tomblaine, et voilà ce qui est marqué. Ils ont du talent, ils sont toujours derrière les projecteurs, derrière les consoles de son, dans l'ombre. Ils travaillent avant, pendant et après le spectacle. Et moi je rajoute avant, pendant et après les émissions. On ne reconnaît jamais assez leur savoir-faire et leurs investissements. Et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas de spectacle, pas de festival et pas d'émission brassage. Ce sont nos techniciens professionnels. Et donc, j'en profite pour dire aussi un grand merci à Jean-Luc Carl pour la mise en œuvre de cette... J'en profite aussi pour remercier Jean-Luc Carl pour la mise en onde de cette émission de brassage, à Tsiganiski pour nos génériques musicaux et à vous, auditrices et auditeurs de brassage, pour votre fidélité et votre audience aussi sur ce 90.7. À bientôt dans un prochain brassage. Belle semaine à vous.